Il est 7h sur Europe 1, bon réveil.
Ça faisait 10 ans, je crois, que la France n'avait pas gagné ici. On est très fiers d'avoir gagné ce match.
Et oui, c'était dans la douleur, mais les Bleus ont vaincu l'Irlande chez elles, à Dublin hier. Un 15 de France qui se hisse en tête du tournoi des 6 nations. L'inquiétude autour de la progression des variants dans le Nord et en Moselle, la Fédération de parents d'élèves, la FCPE, appelle à ne pas mettre les enfants à l'école ce matin. Emmanuel Macron a beau gérer cette crise sanitaire, il n'en pense pas moins à la présidentielle de 2022 et il sait déjà quelle campagne il va mener. Dans ce journal, dossier sur l'égalité hommes-femmes au travail, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront obligatoirement publier leur index d'égalité professionnelle au 1er mars, une note sur 100 fondée sur 5 critères. Et puis un drôle de paradoxe, d'un côté le gouvernement veut encourager l'économie circulaire et de l'autre, il veut taxer les téléphones ou encore les ordinateurs reconditionnés.
Après le journal, nouveau record pour le Bitcoin, au point que certains l'envisagent désormais comme une valeur refuge. L'édito éco de Daniel Fortin, le regard international de Vincent Hervouet sur le rôle de la France au Sahel avant le G7 prévu aujourd'hui. Et puis on retrouvera bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bienvenue, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Cœur de vainqueur, titre l'équipe ce matin. Le 15 de France a en effet réussi à s'imposer hier à Dublin, 13-15, 10 ans qu'on n'avait pas vu ça.
Et sans doute l'un des matchs les plus éprouvants pour les Bleus version Galtier. Mais ils ont tenu bon et ils se retrouvent en tête de la compétition. Alors forcément, hier soir, ils ont savouré la victoire. Simon Rubin.
Quelques minutes après le match hier soir dans les vestiaires, on chante, on danse, on crie et c'est en voyant cette scène de joie que l'on se rend compte de l'exploit, de ce que représente une victoire à Dublin. Le pilier Cyril Bailly le dit, cette première victoire en 10 ans en Irlande, c'est peut-être un tournant.
C'est ce genre de match qui nous aide à grandir et voilà, il faut savourer quand on a la chance de gagner ce genre de match. Et pour l'instant c'est ce qui marche, donc il faut qu'on continue à être surtout soudé comme on l'est.
Un groupe soudé qui ne doute pas, persuadé que la joie qu'il éprouve dans le jeu le protège, une joie qui irradie l'arrière, Arthur Vincent.
Dans cette période compliquée, on essaye encore de aussi, ça c'est tout bénef pour nous, si on arrive à donner voilà, beaucoup d'engouement, justement, beaucoup de bonheur aux gens, ça fait partie aussi de notre mission, donc tout ce joli mélange, on essaye de le garder, et on essaye de progresser, je pense qu'il faut absolument qu'on garde ça.
Et rien ne semble désormais capable d'arrêter cette équipe de France, un 15 de France qui ressemble de plus en plus à un futur vainqueur du tournoi.
Voilà, on l'espère, hein, des Bleus qui recevront l'Écosse le 28 février prochain.
Et on va y revenir avec Virginie Fulpin qui savoure, elle aussi, son édito sport tout à l'heure à 7h20. L'autre grand titre ce matin, ce sont les écoles qui vont ouvrir normalement en Moselle et dans la région de Dunkerque, et cela malgré l'inquiétante progression des variants.
Oui, les élus qui souhaitaient un reconfinement local avec fermeture des établissements scolaires n'ont pas été entendus. En revanche, l'arrivée et la sortie des classes dans les maternelles et élémentaires se feront en décalé pour éviter les attroupements. Les collèges et les lycées fonctionneront moitié en présentiel, moitié à distance. Pas suffisant pour Christelle Caron. Elle préside la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves en Moselle, et elle appelle les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école ce matin.
On a des gens qui sont sur les terrains, des parents bénévoles, qui nous indiquent chaque jour des fermetures de classe. Alors, nous en étions à 69 vendredi matin, nous en étions à 115 samedi midi. On a des informations qui arrivent, on n'a aucune explication. On nous dit juste de faire confiance aux instances, mais le problème, c'est qu'on n'a plus confiance, en fait. On joue un petit peu à la roulette russe en envoyant nos enfants à l'école. Donc, actuellement, au vu de l'ampleur de la crise, du protocole sanitaire qui a démontré son inefficacité, nous proposons aux familles de ne pas mettre leur enfant à l'école avec pour motif, le même et unique motif pour tous, mise en danger des enfants et des familles pour cause de protocoles sanitaires Covid inefficaces.
La présidente de la FCPE en Moselle, jointe par Diane Berger.
Et nous irons à Dunkerque, hein, autre lieu où cette question se pose tout à l'heure dans le journal de 8h en direct.
Les nouvelles hospitalisations et les entrées en réanimation continuent à reculer. On est en moyenne à 18 000 cas par jour sur la semaine dernière, en baisse de 8%. Et pourtant, la pression reste forte pour les soignants, dont certains sont totalement au bout du rouleau.
Alors pour leur permettre de décompresser, il existe une clinique en France, la seule d'ailleurs, qui n'accueille que des médecins, des infirmières ou des aides-soignants. Elle est située à Louhans, en Saône-et-Loire, et elle a ouvert ses portes à notre reporter Hélène Terzian.
Alors ici, on a tous l'impression d'être un peu comme dans un cocon.
Ce cocon, c'est une clinique aux allures de grandes maisons de campagne. Il y a ce grand parc bordé d'une ferme où Stéphanie s'aère de temps en temps. On est loin des centres urbains, loin aussi de son environnement professionnel.
On est tous au même niveau, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de tabou. Ici, on sait tous à peu près pourquoi on vient, il n'y a pas de gêne.
Après un burn-out, épuisé par les cadences imposées pendant la pandémie, Nicolas a quitté Bordeaux il y a un mois pour passer ici de soignant à soigné.
Ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on s'occupe de nous et il y a une équipe soignante qui comprend la difficulté de notre métier puisqu'ils comprennent qu'on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus donner. On est des éponges et au bout d'un moment, on est submergé par tout ça.
Comme lui, un tiers des patients hospitalisés ont vu leurs troubles émerger pendant la crise. Des médecins, infirmiers, aides-soignants que l'équipe de psychiatres dirigée par Thierry Javelot voit affluer en ce moment.
Pendant la première vague, les soignants étaient au front et paraissaient plutôt bien résister. Il faut dire aussi qu'ils étaient davantage soutenus, valorisés. C'est moins le cas dorénavant. Et puis, ils ont maintenant en mémoire ce qu'ils ont dû affronter la première fois. Et certains ne veulent pas y retourner, tout simplement.
Ils seront encore plus nombreux dans les prochaines semaines, prévient le psychiatre, qui se prépare déjà à voir les 38 lits de la clinique occupés. Louant Hélène Terzian, Europe 1.
La politique, Emmanuel Macron investit beaucoup de temps pour gérer cette crise sanitaire. Certains lui reprochent d'ailleurs de concentrer beaucoup tous les pouvoirs.
Oui, et en arrière-plan, le chef de l'État a une autre idée en tête, sans doute pas uniquement en se rasant. Selon vos informations, Louis Dragnel, Emmanuel Macron organise déjà sa campagne présidentielle de 2022 dans le plus grand secret.
Vous connaissez l'adage de Gambetta, y pensez toujours, n'en parlez jamais. Eh bien c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron, car depuis plusieurs semaines, le chef de l'État sollicite beaucoup son entourage. Un peu à la manière des services de renseignement, chacun travaille en silo, en cloisonnant les informations, et le président veille au grain. Selon un de ses proches, Emmanuel Macron sait déjà précisément quelle campagne il va faire, sans lyrisme, sans idéologie, en essayant tout simplement d'être efficace. Une nouvelle matrice du fameux en même temps semble aussi se dessiner, avec d'un côté un discours sur l'apaisement et la projection dans l'avenir, et de l'autre la réparation du pays sur le plan économique et social. D'un point de vue opérationnel, l'ancien député Les Républicains Thierry Soler travaille de manière discrète pour convaincre les grands élus de droite encore susceptibles de rejoindre la deuxième aventure d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, c'est le député européen Stéphane Séjourné qui s'occupe de parler au Modem et à la gauche. Et je peux vous dire qu'un défi est déjà bien identifié. Lorsque commencera la campagne présidentielle en janvier 2022, la France prendra la présidence de l'Union européenne, fortement décriée depuis la crise sanitaire. Et Emmanuel Macron a parfaitement conscience qu'il sera extrêmement difficile de tenir le même discours à Paris et à Bruxelles.
Louis de Ragnel, Emmanuel Macron qui interviendra en visioconférence cet après-midi au sommet du G5 Sahel qui se tient à N'Djamena, la capitale tchadienne. Il s'agit de faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région et l'engagement de la France.
Il est 7h08 sur Europe 1. Dans un instant, la taxe qui fait hurler la filière des téléphones reconditionnés. Mais d'abord, on parle égalité salariale au travail.
Oui, le 1er mars, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront publier un index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Une note sur 100, et ce sera comme ça tous les ans à la même date. On va ouvrir ce dossier avec vous, Olivier Samin, bonjour.
Bonjour.
Les grandes entreprises connaissent déjà l'exercice, mais pour les plus petites, c'est vraiment un sacré défi à relever.
Oui, surtout quand on est une PME qui très souvent n'a pas de DRH et qui doit faire avec les moyens du bord pour relever des indicateurs et calculer ensuite l'index, sans être sûr que le chiffre qui sortira la met dans les clous. Sachant que être dans les clous, c'est avoir une note finale supérieure à 75 points sur 100.
Alors, 75 points sur 100. Olivier, rappelez-nous ce qu'il mesure exactement cet index, cette note sur 100.
Alors, il combine 5 critères qui, chacun, rapportent plus ou moins de points selon le niveau atteint dans l'entreprise. D'abord, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste et âge comparable. La répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes. La répartition des promotions. Le nombre de femmes dont le salaire est augmenté à leur retour de congé maternité. Et enfin, le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Pour aider les PME à se familiariser avec cette mécanique, le ministère du Travail a organisé des sessions de formation un peu partout en France. Olivier Laveau en a suivi une le mois dernier. Il est le DRH de Transvalor, PME basée à Sophia Antipolis, près de Nice, qui conçoit des logiciels pour l'industrie métallurgique. Son objectif ? Améliorer la note de l'entreprise, sachant qu'elle part avec un sérieux handicap, puisque les trois quarts de ses 75 salariés sont des hommes.
Un des leviers que l'on a identifié, c'est l'homogénéisation des rémunérations. Et on a eu un gros travail sur le service commercial, de manière à mettre en place une rémunération identique pour tous nos commerciaux, ce qui nous a permis de faire un bond assez important et d'obtenir la note qui nous permet cette année d'être au-dessus de 75.
Alors avec ces ateliers, Olivier Samin, on voit que le ministère du Travail met le paquet sur l'accompagnement, la pédagogie. Est-ce que ça va durer ?
Eh bien cette année encore, oui, mais à partir du 1er mars de l'an prochain, les entreprises qui ont une mauvaise note auront quelques soucis à se faire. D'abord pour leur réputation, puisque l'index est public, mais aussi pour leurs finances, puisque rester 3 années de suite sous la barre des 75 points vous expose à une amende qui peut aller jusqu'à 1% de votre masse salariale. La peur du gendarme jouera sans doute, mais l'objectif c'est surtout qu'il y ait une prise de conscience dans les entreprises, car plusieurs études l'ont démontré, il y a une corrélation entre mixité homme-femme et performance économique. Et ça se comprend facilement, dit Dunia Bouhassen, qui préside Women Equity, une société d'investissement dédiée au financement des PME dirigées par des femmes.
Une entreprise qui est capable effectivement d'identifier des talents féminins, de les recruter, de leur ouvrir des perspectives, de ne pas caper leur développement, c'est par définition une entreprise qui est plus performante parce qu'elle est en situation de gagner la guerre des talents.
Voilà vraiment une phrase qu'on va retenir. Hein. Merci Olivier Samin, une entreprise capable d'embaucher des femmes est plus performante. Le groupe Génération Identitaire sous la menace d'une dissolution. Le ministre de l'Intérieur a engagé la procédure. Gérald Darmanin dénonce un discours de haine assumé. Une pétition contre cette dissolution a déjà recueilli plus de 23 000 signatures. Et puis des policiers ont été agressés par une trentaine de jeunes ce week-end à Poissy dans les Yvelines. Des jeunes qui ont lancé des mortiers d'artifice en criant « tuez-les ». Pas de blessés ni d'arrestations.
Les professionnels du reconditionné sont très en colère. Vous savez, ces téléphones, ces tablettes ou ces ordinateurs d'occasion qui sont remis à neuf, puis revendus, eh bien, ils pourraient être taxés.
Et oui, le gouvernement veut faire appliquer une redevance de l'ordre de 4% pour aider le secteur de la culture en difficulté. Décision incompréhensible pour une filière qui défend l'environnement et le Made in France. Virginie Salmen.
Oui, plus de 600 petites et moyennes entreprises sont menacées économiquement. Certaines pourraient mettre la clé sous la porte puisque cette redevance serait rétroactive sur plusieurs années. Le consommateur aussi serait pénalisé. Ça représente 14 euros de plus par smartphone. La plus grosse plateforme du secteur, Backmarket, refuse de s'y plier. Son patron, Thibaut Hugues de la Rose, estime qu'on se tire une balle dans le pied.
Ce qui me choque le plus, c'est que le gouvernement nous répète que ce qui est important, c'est de relancer l'économie française en appuyant sur la transition écologique. Et que là, on parle de taxer l'économie circulaire. Il y a une incohérence profonde. Ça va faire fermer la boutique et donc mettre plusieurs centaines de salariés de ces filières au chômage en France. Et donc, on va donner un avantage significatif aux filières étrangères. On va perdre du terrain en France sur le sujet de l'économie circulaire. Pour moi, c'est catastrophique à tous ces niveaux.
Le bras de fer se joue en ce moment au sein du gouvernement entre la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, d'un côté, et Barbara Pompili, ministre de l'Écologie, et Cédric O pour le numérique, de l'autre. Mais plusieurs reconditionneurs craignent que ce ne soit déjà joué, ils ont reçu ces derniers jours des lettres d'assignation pour régler la facture.
Merci Virginie Salmen.
Un autre genre de recyclage, et celui-là, il marche à tous les coups, celui des tubes qui deviennent des hymnes sportifs. Vous avez peut-être identifié celui que les rugbymen du 15 de France chantaient à tue-tête tout à l'heure après la victoire.
Freed from Desire, numéro 1 des ventes en 1996, hein, ça ne date pas d'hier, récupéré par l'équipe de Fabien Galthié. Un titre chanté par l'italienne Gala qui revient aujourd'hui avec une autre chanson sur un rythme moins entraînant, il faut l'avouer. Ça s'appelle Parallel Lines. Gala s'est confié à Angèle Châtelier.
J'aime toujours chanter Freed from Desire. Je suis très heureuse qu'elle donne de la joie à tout le monde.
Et vous dévoilez aujourd'hui un nouveau titre donc appelé Parallel Lines. What's left of the sweetness that lingers
between us gets silenced by too much regret. J'ai jamais arrêté de faire de musique. Les gens pensent que j'ai gagné beaucoup d'argent et que je vis de mes redevances. Au lieu de ça, j'ai subi les effets d'un mauvais premier contrat. Ma carrière était très difficile au début, surtout pour une femme dans le monde de la musique. C'est pour cela que j'ai créé mon proper label. Ma passion est d'écrire des chansons et je compte bien sortir encore beaucoup de chansons.
Parallel Lines de Gala qui sort aujourd'hui, il faut l'avouer, un petit peu moins entraînant et ça reste un petit peu moins dans la tête que Freed from Desire.
Freed from Desire qui a animé nos booms.
Et puis je ne peux pas ne pas terminer avec ce carnet rose dans la famille royale britannique puisqu'on a appris que Meghan Markle et le prince Harry allaient avoir un deuxième enfant. Le petit Archie, bientôt 2 ans, va donc devenir grand frère.
Le journal signé Hélène Zellani sur Europe 1, il est 7h15.
Europe Matin,
le 7-9.
Sébastien Krebs.
Nous sommes au centre spatial de Dubaï. Vous allez entendre le responsable de la mission Hope. Des applaudissements et une victoire annoncée aux nations arabes et musulmanes. Dieu soit loué, dit le responsable du projet de cette mission lancée par les Émirats vers la planète Mars. Les Émirats qui ont mis en orbite autour de la planète rouge une sonde. C'est une première pour le monde arabe, la planète rouge, objet de toutes les convoitises. Pour quel intérêt scientifique? On va en parler à 7h40 avec mon invité, l'astrophysicien François Forget. Mais tout de suite, l'éclairage éco de Daniel Fortin et le regard international de Vincent Hervouette. Bon réveil à tous.
Europe Matin,
le 7-9, Sébastien Krebs.
7h17 sur Europe 1.
L'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
De la rédaction des Échos, merci de nous rejoindre cette semaine pour l'éclairage Écho. 49 700 dollars. C'est le nouveau record enregistré par le Bitcoin hier et c'est peut-être loin d'être fini. Comment on peut expliquer cet engouement, Daniel ?
Alors la principale raison, c'est qu'elle est en train de changer d'image. Vous savez, autrefois, le Bitcoin, c'était une monnaie un peu méprisée. Sa naissance obscure, son caractère virtuel, laissait même soupçonner des utilisations peu avouables. On parlait de blanchiment, d'argent, de la drogue, par exemple. Aujourd'hui, tout ça est fini. On voit de plus en plus d'institutions respectables s'y intéresser. Hier, par exemple, son cours s'est envolé sur la simple rumeur que la banque Morgan Stanley pourrait en acheter. Il y a quelques jours, vous en parliez à cette antenne, cette Elon Musk, le patron de Tesla, qui en achetait pour 1,5 milliard de dollars. Donc, toute cette demande fait s'envoler les cours, d'autant que le nombre de bitcoins a été volontairement limité à 21 millions d'unités par ses créateurs. C'est donc un produit rare et certains financiers parient même qu'il deviendra de plus en plus cher. Sa valeur pourrait bientôt atteindre les 100 000 dollars.
On pourrait encore doubler. Alors, d'accord, mais acheter du bitcoin, ça sert à quoi ?
Alors, à deux choses. D'abord, ça peut devenir une monnaie d'échange, comme l'euro ou le dollar. Tesla a annoncé par exemple, qu'il proposerait à ses clients de leur vendre des voitures contre des bitcoins. Mais surtout, aujourd'hui, le bitcoin, c'est aussi une valeur refuge pour certains grands épargnants. C'est un peu comme l'or. À l'heure où les banques centrales font marcher à fond la planche à billets pour financer à crédit nos économies en crise, eh bien, on se dit qu'après tout, le bitcoin, compte tenu de sa rareté, ne risque pas de perdre sa valeur, contrairement à ce qui pourrait se produire avec les monnaies traditionnelles. Donc, on en achète pour protéger son épargne.
Et donc, c'est sérieux. Le bitcoin a vraiment un avenir.
Alors le Bitcoin lui-même, c'est difficile de répondre, mais ce qu'il représente, c'est-à-dire la digitalisation de la monnaie, sans aucun doute, tout le monde le constate, on paye de moins en moins avec du cash, demain la carte de crédit elle-même disparaîtra, et que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe, toutes les banques centrales préparent de futures monnaies numériques, elles seront mises en circulation, elles seront plus sûres, moins chères à produire, plus faciles d'utilisation, c'est du moins le pari que tout le monde fait aujourd'hui.
On écoute le monde changer, on écoute l'économie changer. Avec vous ce matin. Merci Daniel Fortin, à demain.
C'était l'éclairage éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et je salue Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour à tous.
Votre regard international ce matin sur la place de la France dans la lutte antiterroriste en Afrique. Le sommet du G5 Sahel s'ouvre aujourd'hui dans la capitale du Tchad.
Oui, l'an dernier, Emmanuel Macron avait convoqué les chefs d'État à Pau, pas pour faire plaisir à François Bayrou, pour faire une minute de silence à la caserne du 5e régiment d'hélicoptères de combat en mémoire des 7 militaires tués en opération. Un sommet à Pau pour rendre hommage aux sacrifices des Français au lieu de les rendre responsables de tout ce qui ne va pas. Message reçu 5/5 par les présidents du Mali, du Niger, du Burkina, qui laissait les démagogues dire n'importe quoi contre les Blancs. Cette année, Emmanuel Macron reste dans son bureau, il participe par Zoom, et il a une excuse, le Covid, tant pis, et même tant mieux, si les dirigeants du Sahel se disent que Paris s'impatiente, que la fatigue gagne, que la France cherche la porte de sortie. Les paras sont en première ligne depuis 8 ans, ils s'enlisent fatalement. Les djihadistes gagnent du terrain, il est urgent de faire de la politique.
Mais si les Français de Barkhane se replient, les djihadistes vont en profiter ?
Oui, mais ils profitent du chaos. Les dirigeants africains doivent se battre contre les djihadistes, bien sûr, et il faut les aider, mais surtout contre la corruption, contre les trafics, le clientélisme, les inégalités, la misère, la défiance. Sinon, le Mali demain, ce sera la Somalie. La guerre civile en Somalie dure depuis 30 ans. Les chefs de clan ont mis en déroute les Américains, puis les talibans locaux ont pris le relais. Et depuis 15 ans, les Chebab avancent, malgré l'aide internationale qui ruisselle et s'évapore, malgré les 20 000 soldats onusiens. Pourquoi ? Eh bien parce que l'État est incapable de se réformer.
Et l'élection présidentielle qui était prévue la semaine dernière a été repoussée.
Les Chebab ont déjà liquidé 20% des grands électeurs. S'ils continuent, l'État islamique plantera son drapeau à Mogadiscio avant Bamako. Pour conjurer le pire, il y a toujours un espoir. Et là, il s'appelle Abchir, descendant de roi, neveu de l'ancien président Siad Barré. Il a du charisme, un bon profil, il a fait fortune à Londres. David Bowie était même son oncle. Et il parle français, et pour cause, il a été élevé à Issy-les-Moulineaux, où sa famille l'avait mis à l'abri. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que la France officielle ignore ce candidat. Pas un sou, pas un coup de fil, même pas un zoom.
Le regard international de Vincent Hervouette, chaque matin sur Europe 1. À demain, Vincent. Le banc du 15 de France, au moment du coup de sifflet final hier après-midi, gagné en Irlande, c'est une première depuis 10 ans. Et vous pouvez rajouter la victoire d'Emilien Jacquelin en biathlon. Hier, c'était une Saint-Valentin de rêve pour Virginie Fulpin qui s'installe. L'édito sport à suivre sur Europe 1 avant de retrouver Stéphane Bern.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
7h24 sur Europe 1 et je salue Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre édito sport entre le rugby, le biathlon, le tennis, le foot, le ski, le vélo, c'était un gros dimanche hier. Un beau dimanche de victoire pour cette Saint-Valentin en tout cas. Et l'occasion pour vous du coup de déclarer votre flamme au sport et aux sportifs qui vous ont fait vibrer.
Ouais, bah j'ai envie de leur dire que je les aime, celles et ceux qui nous ont fait battre le cœur à rompre hier deux Marseillaises dans la journée, des chemins enneigés et des vertes prairies, des boulevards vers le succès ou des embûches contournées avec brio, c'était le bouquet franchement. Entre frissons, suspense insoutenable, libération et émotion à fleur de peau, le sport nous a offert un condensé des plus beaux élans d'amour en une journée. Les larmes de Brice Dulin à la fin du match du 15 de France en Irlande en disent long sur l'abnégation, sur l'esprit d'équipe que les Bleus ont dû avoir pour s'en sortir face aux Irlandais. Accepter de plier sans jamais rompre. Les Français ont passé la première demi-heure de ce match à subir les assauts adverses, à résister, à rester debout avant de relever la tête. Puis le dernier quart d'heure était carrément irrespirable. Je regardais le chronomètre avec la même impatience que quand on tourne la tête 8 fois par minute vers l'écran de notre téléphone pour voir s'il va enfin arriver ce SMS de Saint-Valentin. Et c'est arrivé. La victoire des Bleus, pas le SMS. La fin de 10 ans de disette à Dublin. Ce match n'était pas forcément notre plus belle histoire d'amour avec le 15 de France, mais cette équipe a du cœur et des tripes. Et ça, ça vaut toutes les promesses du monde.
Bon, vous aviez un date avec le 15 de France. Très bien, on a bien compris. Emilien Jacquelin, lui, a tenu aussi ses promesses au championnat du monde de biathlon.
Mais quand il est devenu champion du monde de poursuite l'an dernier, il a tout de suite coché le 14 février 2021 sur son calendrier. Ce qu'il voulait, c'était garder son titre. Et il a tenu parole de la plus belle des manières. Preuve, s'il en fallait, que l'amour peut durer 2 ans. Celui qu'on surnomme le Lucky Luke du pas de tir a réussi un 20 sur 20 exceptionnel devant les cibles et il n'avait plus qu'à skier vers la victoire. Je l'appellerais plutôt Cupidon, moi. D'ailleurs, il a touché au cœur Martin Fourcade, qu'il a chaleureusement félicité. Si ça ne vous fait pas flancher, le glorieux aîné qui spamme devant les succès du Benjamin, ben là, je ne peux plus rien pour vous. Juste après, Anaïs Chevalier-Boucher a offert une nouvelle médaille à la France, le bronze de la poursuite féminine au lendemain de sa médaille d'argent en sprint. Celle qui a mis sa carrière entre parenthèses l'an dernier pour donner naissance à sa fille est revenue plus forte que jamais. Et oui, l'amour donne des ailes sur les terrains de sport aussi. Et ça nous montre une fois de plus qu'être championne et maman, c'est possible. La maternité, longtemps sujet tabou dans le sport de haut niveau, est enfin en train d'être acceptée. Vous voyez que les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Allez, cœur sur vous.
Et oui, il faut leur dire qu'on les aime et qu'ils nous font vibrer tous ces sportifs. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, 7h26. Et c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern, comme chaque matin, pour notre moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Pour commencer la semaine, voici une expression proverbe qui mérite toute notre attention. L'habit ne fait pas le moine.
L'habit ne fait pas le moine. Alors c'est connu, ça veut dire il faut se méfier des apparences.
Exactement, on ne dirait pas mais comme ça, mais je suis un vrai punk. Quoi qu'il en soit, c'est au XIIIe siècle que l'on trouve trace de l'expression. Elle serait la traduction de la formule latine « Barba non facit philosophum ». C'est du Plutarque et pour résumer, ça veut dire « la barbe ne fait pas le philosophe ». Autre origine possible, de l'habit ne fait pas le moine. François Grimaldi, dit le malicieux, ascendant de la famille qui règne toujours sur la principauté de Monaco, il s'empare du rocher d'Hercule en janvier 1297 grâce à une ruse. Il se déguise, lui et sa petite armée, en moine franciscain, demande l'asile et la nuit durant, il refait le coup du cheval de Troie. Et d'ailleurs, sur les armoiries de Monaco, aujourd'hui encore, on trouve deux moines avec des épées pour se souvenir de ce haut fait d'armes. C'est clair que sur ce coup-là, l'habit n'a pas fait le moine. Une dernière explication peut nous éclairer sur cette formule, car les moines n'ont pas toujours été d'une grande exemplarité de comportement. Le pape Grégoire IX, au XIIIe siècle, en utilisant cette expression, rappelait que beaucoup ont été portés sur la chose, étaient cupides et violents. Tous n'étaient pas des saints, loin de là. Allez, on termine avec une jolie citation sur les habits. Elle est de Jean Rochefort. « J'aime l'habit confortable, mais j'ai la trouille de la Charentaise. » On croirait l'entendre, non?
C'est vrai. Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure, 16h, avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit François-Marie Arouet, qui deviendra Voltaire, le génie des mathématiques au destin tragique Alan Turing, et Greta Thunberg, l'icône écologiste la plus célèbre du monde. Leur point commun, jeune et génie. À tout à l'heure, 16h sur Europe 1.
Historiquement vôtre avec le punk Stéphane Bern, c'est vous qui l'avez dit. Et Mathieu Noël, à tout à l'heure. Laurent Cabrol, c'est à vous pour le temps de ce lundi matin.
Oui, ce lundi qui ressemblera à mardi, qui ressemblera à mercredi, qui ressemblera presque à jeudi. Autant dire que l'habit fait le moine et les jours se suivent et se ressemblent. Pour ce qui nous concerne en météo, jeudi, toute la France sera sous un temps humide. Vendredi, les températures commenceront vraiment à monter. Le prochain congé de fin de semaine s'annonce ensoleillé et doux. Et va-t-on assister à l'installation de la douceur pour la fin du mois de février? C'est une question qu'il est opportun de se poser. Et j'y travaille. Voilà. Tout pour tout vous dire. Aujourd'hui, nous aurons du soleil sur le sud-ouest, le massif central et la région Rhône-Alpes. Nous aurons un ciel voilé sur le Poitou-Charentes, l'Orléanais, la Bourgogne et les régions de l'Est. Voilé, mais souvent nuageux, il faut bien le dire. Et de la pluie sur la Loire-Atlantique, sur la région parisienne, sur les régions de l'Est, Champagne-Ardenne. Nous aurons donc un temps souvent pluvieux et des pluies près des côtes de la Manche, c'est-à-dire la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez que toutes les régions qui bordent la Manche, donc, forme une sorte de colonne, une sorte de collier qui fait que le temps est souvent identique. Les températures maximales aujourd'hui, 5 à Belfort, 6 à Lille, 8 à Paris, 9 à Avallon, 10 à Caen, vous voyez que c'est pas mal, hein, 11 à Nice, 12 à Marseille, 13 à Toulouse, 15 à Bordeaux, 16 à Vichy et 18 degrés à Pau. Voilà.
Ouais, bon, on va se réchauffer.
Pas mal.
Bon, très bien. À tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h30.
On a cette chance d'avoir connu des gens exceptionnels que sont les bénévoles, parce que c'est des gens qui font ça sur leur temps perso. Sans ça, je vous dis, il y avait beaucoup d'enfants, je pense qu'ils se battraient moins à l'hôpital.
C'est un témoignage plein d'espoir et plein de reconnaissance, celui d'un père dont la fillette souffre de leucémie. Mais grâce aux bénévoles, son quotidien est un peu moins insupportable. Dans ce journal, ce coup de pouce pour les étudiants les plus précaires accueillis gratuitement dans des hôtels. La fierté de Boris Johnson qui se félicite du succès de la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Le procès du chauffard de Lorient, ce jeune homme de 22 ans qui avait fauché deux enfants dont un mortellement. Et puis la Ligue des champions de football, les choses sérieuses commencent demain soir. PSG Barcelone à l'affiche, un match à gros enjeux pour les deux équipes.
À suivre après le journal, le regard décalé de Bertrand Chamerois, il est capable de tout, la touche âme à suivre. Et puis la course lancée vers la planète Mars avec l'astrophysicien François Forget, invité du tête-à-tête Europe Matin, avant de retrouver l'édito politique signé Nicolas Bétou. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la journée internationale du cancer de l'enfant aujourd'hui, une maladie qui tue 500 jeunes en France chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité juste après les accidents domestiques. Ludovic Brosset est le papa d'Aline, une petite fille qui a contracté une leucémie à l'âge de 4 mois. Après deux rémissions, elle a récemment rechuté, mais grâce aux bénévoles de l'association Princesse Margot, ses parents réussissent à trouver la force de se battre au quotidien.
Un enfant en chambre stérile ne s'amuse pas. C'est pas très fun d'être dans un 5 mètres carrés, 10 mètres carrés avec une télé. Faut pouvoir les occuper, ces enfants-là. Et les soignants peuvent pas être partout. Et c'est là que les associations interviennent. C'est là qu'elles sont là pour animer, pour jouer, pour motiver, pour redresser les têtes, essuyer les larmes. Mais j'ai envie de dire, dans d'autres mésaventures, on a aussi une belle aventure humaine. On a cette chance d'avoir connu des gens exceptionnels, que sont les bénévoles, parce que c'est des gens qui font ça sur leur temps perso, voilà, qui ont décidé de rayonner un petit peu et donner un peu de bonheur aux enfants qui sont, eux, en forte difficulté. Faut souligner ça. Pour moi, c'est hors du commun. Sans ça, je vous dis, il y avait beaucoup d'enfants, je pense qu'ils se battraient moins à l'hôpital. Nous, Aline, elle fait partie de ces enfants, moi je dirais qu'ils rayonnent, elle est solaire, Aline. Mais elle n'est pas solaire que parce qu'elle a été faite comme ça. Elle est solaire parce qu'il y a des gens autour qui l'ont rendue solaire.
Un témoignage au micro de Victor Delande. Si vous voulez aider cette association, vous pouvez faire un don directement sur le site www.princessemargotot.org.
Et on avait envie ce matin de saluer tout ce travail des bénévoles. À la une, aussi, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux jeunes en difficulté à cause de la situation sanitaire. En Ile-de-France, la région propose maintenant des hébergements gratuits à l'hôtel pour les plus précaires.
Les deux hôtels du groupe Accor ont mis à disposition quelques dizaines de chambres depuis la semaine dernière. À terme, il y en aura 100 dans 4 établissements. Nicolas Feldman s'est rendu dans celui de Saint-Ouen, au nord de Paris.
C'est une chambre sommaire, une fenêtre, de la peinture rose et blanche, quelques affiches au mur.
Il y a un lit, j'ai une table.
Qu'importe les douches sur le palier, qu'importe aussi la vue sur le périphérique, pour cette étudiante de 21 ans, ces 10 mètres carrés sont un refuge.
L'endroit où j'étais, c'était un studio que je partageais, je dormais sur le canapé. Il y avait beaucoup de bruit, j'avais du mal à me concentrer et c'était un peu difficile pour moi.
Sur les 50 chambres mises à disposition, 16 sont aujourd'hui occupées par des étudiants.
Là, la priorité, c'est que vous ayez un toit sur la tête.
Virginie Tremblay accueille les jeunes envoyés par les universités. Elle travaille au pôle exclusion de la Croix-Rouge.
On a des jeunes qui n'étaient pas forcément à la rue, mais qui se retrouvent sur un mal logement. Beaucoup nous ont dit qu'on était chez des amis, sauf que c'est un petit studio. Et là, avec la crise sanitaire, on est H24 les uns sur les autres et on ne supporte plus. Ils ne peuvent pas cuisiner, ils ne peuvent pas faire leurs cours. Beaucoup nous disent qu'on est limite assis dans la douche à faire nos cours parce qu'on n'a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas étudier correctement. On est sur une réponse d'urgence.
Avec l'assurance pour ces étudiants d'avoir un toit au moins jusqu'à l'été.
Reportage signé Nicolas Feldman. Les hospitalisations continuent de baisser depuis 5 jours en France, tout comme les entrées en réanimation. Plus de 2 200 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin.
Au Royaume-Uni, ce sont déjà 15 millions de personnes qui ont été vaccinées.
Et 15 millions de personnes qui ont reçu une première dose, en tout cas un chiffre dont se félicite le Premier ministre Boris Johnson. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans le programme national de vaccination, dit-il. Et c'était l'objectif du gouvernement britannique. Offrir un vaccin aux catégories de personnes les plus vulnérables à la mi-février. Un exploit extraordinaire pour Boris Johnson.
7h34 sur Europe 1, on en vient au procès du chauffard de Lorient qui va débuter aujourd'hui. En 2019, ce jeune homme avait percuté 2 enfants. L'un d'eux n'avait pas survécu.
Kylian, 22 ans, avait ensuite pris la fuite, 9 jours de cavale avant d'être arrêté dans un hôtel d'une commune voisine. Il sera jugé pour homicide et blessures involontaires. Avec lui sur le banc des prévenus, sa passagère et ex-petite amie, poursuivie elle aussi pour non-assistance à mineur en danger. Justin Morin.
D'abord, il y a un contrôle routier qui tourne mal. Le conducteur prend la fuite et fonce à plus de 100 km/h en direction de Lorient. En ville, il emprunte la voie de bus, brûle un feu rouge et percute une voiture sur un rond-point. Au même moment, 3 garçons, des cousins, discutent à la sortie d'un McDo et sont fauchés par la voiture folle. L'un d'eux meurt sur le coup, le deuxième est grièvement blessé, le troisième s'en sort miraculeusement. Des témoins leur portent à leur secours, mais pas le chauffard ni sa passagère qui repartent et disparaissent dans un quartier voisin. La jeune femme se rend rapidement, mais le conducteur, lui, va se cacher dans la campagne alentour, puis dans un hôtel de zone commerciale. Une femme de chambre finit par le reconnaître, il s'était pourtant rasé la barbe et les cheveux. Philippe Courtois, l'avocat de la famille des victimes, accuse un homme lâche qui n'a jamais assumé ses responsabilités.
Ce n'est pas un primo délinquant, c'est une personne qui est connue de la justice pour des faits similaires, des conduites sans permis, des conduites sous stupéfiants, et qui malgré les condamnations n'avait strictement rien à faire des décisions qui étaient rendues à son encontre. Donc il faut une sanction ferme.
Le conducteur âgé de 22 ans reconnaît les faits, mais pendant toute la procédure, il a toujours juré ne pas avoir vu les enfants, sinon il se serait arrêté, dit-il. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. À l'étranger, l'ouverture du G5 Sahel tout à l'heure, un sommet entre 5 pays de cette région d'Afrique et la France. Au menu, l'avenir de l'opération Barkhane. Paris voudrait commencer à réduire la voilure des troupes déployées sur place. La mobilisation continue en Birmanie, 2 semaines après le coup d'état militaire qui a mené à l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. Malgré le durcissement de la répression par la junte, plusieurs manifestations sont en cours aujourd'hui. L'armée est toujours déployée. Hier, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Le football et Lille conservent la première place du classement de Ligue 1 après sa victoire à Nantes hier soir, 2-0. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de Nice, remonte à la deuxième place. Les Parisiens qui se préparent à affronter le Barça demain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et ce sera bien plus qu'un simple match pour les deux équipes.
Julien Froment nous a rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors à Barcelone, on dit en catalan, attention, plus qu'un club, Més que un club, c'est comme ça qu'on
c'est
dit
ça, voilà.
Alors, c'est la devise du club. Demain, ce sera donc Més que un match, oui. Plus qu'un match. Ce 8e de finale, plus sérieusement, représente aussi un enjeu d'image et économique pour les deux camps.
Oui, exactement. À commencer par le Paris Saint-Germain, qui estime le manque à gagner à plus de 200 millions d'euros cette saison à cause de la crise du Covid-19. Un beau parcours en Ligue des Champions pour limiter les dégâts. L'an passé, par exemple, en atteignant la finale, le club de la capitale avait empoché 134 millions d'euros de gains. Pour le FC Barcelone, c'est encore pire. La dette du club catalan dépasse le milliard d'euros. Ce qui pèse dans les finances, c'est le salaire de ses stars. Et selon les révélations du quotidien espagnol El Mundo, notamment le contrat de l'Argentin Lionel Messi, un sextuple ballon d'or, eh bien il coûterait au Barça la bagatelle de 555 millions d'euros.
Et justement, Léo Messi, c'est aussi l'un des grands enjeux du match de demain.
Oui, car l'Argentin est en fin de contrat. En juin prochain, il peut signer là où il veut. Or, le PSG est l'un des rares clubs à pouvoir se l'offrir. Lionel Messi est devenu plus qu'un enjeu sportif, c'est un enjeu politique, car le club catalan doit élire son futur président le mois prochain. Et selon le candidat qui sera élu, eh bien Messi restera ou ira voir ailleurs. Le grand favori de cette élection s'appelle Juan Laporta. Il a déjà été président du Barça. Il est rare dans les médias français et il a confié à Henri de Laguerry qu'il fera tout pour conserver Messi.
Bon, je verrai la possibilité économique du Barça pour faire une proposition à Léo Messi pour qu'il continue. Et bon, j'étais très convaincu que Léo restera au Barça.
Alors le PSG, dans tout ça, eh bien, il ne se cache même plus. Le directeur sportif, Leonardo, a récemment déclaré à France Football « On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. » Enfin, dernier point qui a son importance à Paris, il possède dans ses rangs, bien le Paris Saint-Germain, un VRP de luxe. Il s'appelle Neymar et selon les informations de nos confrères de l'équipe, eh bien, il vanterait les charmes du club de la capitale à Lionel Messi, justement.
Merci beaucoup Julien Froment et on vous retrouvera justement demain soir aux commentaires de ce Barcelone-PSG, soirée spéciale sur Europe 1 autour de Lionel Rosso et son équipe.
Vous serez sur place, bien sûr, à Barcelone. Pardon pour cet accent catalan absolument catastrophique, j'ai fait de mon mieux. Hein. J'évite les pièges. Merci à vous deux. C'était le journal de Sophie Echen, 7h38.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre le tête-à-tête Europe Matin avec l'astrophysicien François Forget. On va s'arrêter sur cette première dans l'histoire de la conquête spatiale. Les Émirats Arabes Unis qui ont réussi à mettre en orbite une sonde autour de la planète Mars. François Forget a participé à cette mission. La planète rouge, objet de toutes les convoitises. Mais tout de suite, c'est la touche âme avec Bertrand Chamerois.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ce matin, je vous parle Royal Baby, une nouvelle qui fait beaucoup d'heureux.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h42 sur Europe 1, vous en avez l'habitude, votre rendez-vous avec Bertrand Chamerois, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez carnet rose.
Oui, on l'a appris hier en début de soirée, jour de la Saint-Valentin. Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant. Une info traitée ce matin, notamment sur BFM, qui nous a révélé un scoop, et pas des moindres, en scrutant la photo faire part. Investigation.
Meghan allongée, la tête sur les jambes d'Harry et la main sur son ventre. Un ventre qui paraît plutôt arrondi, ce qui nous laisse penser que la grossesse est déjà bien avancée.
Oui, bah, vu qu'il l'annonce, je pense que la grossesse est bien avancée. Bien vu, Colombo. Selon les sources, la grossesse de Meghan ravirait la reine Elisabeth. Et en France aussi, la nouvelle fait des heureux. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un se dévoue pour s'occuper de Stéphane Bern là? Parce que non, Sébastien, il faut faire quelque chose. Vous êtes passé dans la rédac là, depuis tout à l'heure? On ne le tient plus. Il est inarrêtable. Ah bah, c'est son France-Brésil à lui. Bah,
tout à l'heure, il nous a dit qu'il était punk. Hein,
ah bah oui, non, bah, là, il ne s'arrête plus. Yahoo! Meghan est enceinte! J'en ai plus rien à fiche! Et ce matin, je vous explique d'où vient l'expression mon cul sur la commode! Stéphane, c'est Bertrand! C'est la direction qui m'envoie! Descends de ce bureau immédiatement! Remets ton pantalon et ton veston, s'il te plaît! Je comprends que cette nouvelle te met en joie, mais tu es en plein milieu de la rédac! Les gens essaient de travailler! On ne danse pas en caleçon sur un bureau. Stéphane, c'est un peu gênant, là. Non, bah, il veut rien entendre. Après, je le comprends, hein, il a besoin d'évacuer. Il a vécu un de ses ascenseurs émotionnels ce week-end. Vendredi soir, il animait les Victoires de la Musique sur France 2. Il voulait pas partir de la radio. C'est France 2 qui est venu le chercher de force. Il était terré dans son bureau en hurlant « Je veux pas y aller, je connais pas un seul des artistes. Ils ont l'air sales, ces voyous. Il y a des rappeurs et des rockers. C'est bourré d'intermittents du spectacle. En plus, ils boivent de la bière. De la bière !» Donc hier, quand la nouvelle du Royal Baby est tombée, ça l'a mis dans tous ses états. Il est arrivé en faisant une champagne shower dans le hall. Mais ça lui fait du bien. Depuis septembre, il parle que de personnalités décédées. Donc il attendait que ça, qu'il se passe quelque chose dans le Gotha. Qu'est-ce que c'est? Non, Stéphane! Ah, il nous fait une roue arrière au biais de l'open space. Stéphane! Tu te calmes, sinon on te renvoie à la scène musicale avec Laurie Tillman et Gradure. Voilà, il n'y a que ça qui marche. Allez, bon courage. Et s'il recommence, vous m'appelez, hein, Sébastien.
La touche âme, chaque matin avec Bertrand Chamerois. À demain, Bertrand, 7h44.
Europe Matin.
le 7-9.
On écoute le monde changer et la course à l'espace est entrée dans une nouvelle ère avec de nouveaux acteurs. Après l'Inde, après la Chine, les Émirats Arabes Unis rejoignent à leur tour le club des nations capables de peser. C'est à la conquête de la planète Mars que Dubaï et Abu Dhabi se lancent. Mon invité ce matin a participé à cette mission. Je reçois l'astrophysicien François Forget, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en studio. Trois missions sont en cours vers la planète Mars, on va les évoquer. Mais le fait que ce soit une sonde envoyée par les Émirats qui arrive en premier, ça c'est particulièrement nouveau, c'est une première pour le monde arabe. Il faut compter désormais avec les Émirats, puissance spatiale.
Oui, alors c'est pas comparable à la Chine quand même. C'est juste qu'ils ont voulu... Ils avaient une vraie ambition scientifique d'ailleurs, avec, je crois sincèrement, aussi bien dans leur communication que quand je discute avec mes collègues émiratis, une volonté de susciter des vocations, d'inspirer les jeunes aux Émirats Arabes Unis, mais dans le monde arabe en général. Et donc, pour marquer le coup, cela dit en passant, aussi, entre guillemets, fêter l'anniversaire du pays, 50 ans depuis la création des Émirats. Donc, ils ont fait cette mission avec une vraie ambition scientifique. Mais alors, de là à dire que c'est une nouvelle puissance spatiale, c'est bien leur volonté. Mais bon, c'est pas comparable.
Oui, parce qu'ils affichent quand même des objectifs très ambitieux. Ils disent, notre objectif est d'aller installer une colonie sur la planète Mars d'ici un siècle.
Voilà, c'est ça, c'est d'ici un siècle. Non, mais ils ont plein d'objectifs, puis attention, ça se respecte, parce que quand on voit la ville de Dubaï, il y a lieu d'être impressionné parfois dans la vitesse et l'efficacité de leur projet. Néanmoins, c'est comme toutes les agences spatiales, ils ont des projets à long terme qui font rêver, c'est normal, il y a des ingénieurs qui réfléchissent à ces choses-là, c'est important. Mais là, ce qui est surtout marquant, c'est le fait d'avoir fait une vraie mission qui est en orbite autour de Mars, qui va faire de la très bonne science. Donc ça, c'est intéressant, c'est le quotidien, c'est la réalité maintenant.
Oui, parce que c'est pas anodin, mettre une sonde en orbite autour de Mars après 7 mois de voyage dans l'espace, c'est déjà une belle démonstration, c'est une opération délicate.
Absolument. Personnellement, dans ma carrière, j'ai vécu plusieurs échecs au moment de la mise en orbite autour de Mars, avec des missions américaines donc, qui avaient tout pour réussir. Donc oui, c'est quelque chose de pas facile. Il faut allumer les moteurs pour freiner. Il faut allumer les moteurs pendant plusieurs dizaines de minutes. Là, c'était 27 minutes et il peut arriver plein de choses. Le moteur peut exploser, on peut passer trop bas, trop haut. C'est pas évident. Donc c'est une grande réussite. On est très contents.
Oui, parce que je précise que vous avez travaillé dans le passé à la fois pour la NASA, pour l'Agence européenne, pour le CNES en France. Quel a été votre rôle auprès de cette mission émirati?
Oh, j'ai pas un rôle majeur, notamment au point de vue technique. Je travaille pas avec mon tournevis et mon fer à souder. Mais disons que j'ai une expertise avec mon équipe. Ici en France, nous avons une expertise dans tout ce qui concerne justement l'atmosphère martienne, le climat. Et c'est bien l'objectif scientifique de cette sonde. Donc on participe un peu à coordonner les différents instruments. Et puis pour être très précis, nous fournissons ce qu'on appelle un modèle numérique qui simule l'atmosphère martienne et qui permet d'interpréter les données et de préparer les observations. Voilà ce qu'on fait.
Alors cette mission s'appelle HOPE, espoir en anglais. Pourquoi aller sur Mars peut nous donner de l'espoir au-delà du rêve de gosse que ça peut représenter? Quel est l'espoir scientifique?
Encore une fois, alors scientifiquement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va observer la météorologie et le climat sur Mars. C'est très intéressant parce que l'atmosphère de Mars ressemble beaucoup à la Terre par bien des points de vue. Donc en étudiant une autre planète comme ça, on comprend mieux ce qui se passe sur la Terre. Alors au niveau, pour ce qui concerne entre guillemets l'espoir, l'idée c'est que... ce que je voulais dire, c'est que l'originalité de cette mission, ce ne sera pas la première. Elle se met très loin de Mars, donc elle observe de manière globale la planète Mars. Et ça, quelque part, c'est étonnamment une première. Il y a beaucoup de missions qui ont déjà fait des choses, mais très bas en altitude, juste à côté de la planète. Ouais. Et donc, on avait des tranches. Là, on va avoir une vision globale. Alors, le côté espoir derrière tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de renouveler, de faire un renouveau de la science arabe. Ils se réfèrent souvent à l'âge d'or de la science arabe, vous savez, au Moyen-Âge, quand toutes les étoiles du ciel ont été nommés par les Arabes, les chiffres arabes, etc. Donc ils aiment bien cette idée-là. Et donc vraiment parler à la jeunesse du monde arabe.
Ouais, parler à la jeunesse du monde arabe, on en revient à cet enjeu de puissance. Compter dans le monde, ça passe aussi par se mettre dans cette course à l'espace. Cette sonde, elle va rester pendant un an autour de Mars. Non, un an martien, parce que en année de la Terre, ça fait 2 ans.
C'est à
ça,
parce que c'est la planète Mars. Si tout se passe bien, ça va peut-être faire 2, 3, 4, 5 ans.
Elle ne se posera pas sur Mars, contrairement à la sonde chinoise qui est arrivée exactement en même temps et qui va envoyer un robot. Les Américains aussi envoient un robot qui va arriver dans les quelques prochains jours. Il y a 3 missions coup sur coup. Pourquoi cette ruée comme ça d'un coup vers la planète Mars ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'en une semaine, on a trois missions qui arrivent. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est simplement lié au fait qu'on ne peut pas tout le temps envoyer des missions vers Mars. En fait, Mars se rapproche de la Terre tous les 26 mois. Il faut imaginer, la Terre, bien sûr, fait le tour du Soleil en un an. Mars, à peu près deux ans. Donc, il faut tous les 26 mois, on peut à peu près lancer une mission. Mars est au plus près de la Terre en octobre. Donc, un petit peu avant, au mois de juillet, les trois missions ont été lancées et elles arrivent maintenant en février. Donc, tous
c'était
les deux ans, on a l'impression
court.
Comme ouais. ça qu'il y a y a un assaut sur Mars,
mais il y avait une fenêtre pour partir.
C'est lié à la géométrie, ouais.
Les Émiratis, comme les Chinois, je le disais, veulent établir à terme une colonie humaine sur Mars. Allez, d'ici moins d'un siècle, ça peut arriver. Dans le siècle qui vient, c'est quelque chose qui est faisable, qui est un objectif tenable.
Alors la première étape, c'est de savoir si on peut envoyer des hommes, une mission un peu comme Apollo, qui durait plus longtemps bien sûr parce que c'est très loin, mais une mission d'astronaute, une expédition. Donc ça, c'est envisageable et c'est envisagé de plus en plus. Hein. Les agences spatiales, à commencer par la NASA, vraiment le mettent dans leurs objectifs pour les années à venir. Pour ce qui est d'une colonie, donc dans à plus long terme, là c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est plus de la science-fiction, c'est un peu comme si on envisageait de coloniser l'Antarctique mais en 100 fois pire, donc je suis pas sûr que ça arrive. Néanmoins, bon, déjà la première étape c'est d'envoyer des astronautes, c'est quand même un objectif.
Je disais que les Émiratis envisagent même de bâtir une cité dans leur désert, sur Terre, pour simuler des conditions martiennes et préparer de futurs astronautes, c'est sérieux ça ?
Oui, ils ont ce projet-là, alors c'est tout un ensemble d'études un peu théoriques, scientifiques, ouais. C'est aussi peut-être quelque chose qui sera impressionnant à visiter, ou je ne sais pas. Donc il y a cette idée. C'est vrai que pour ce qui concerne même une simple expédition vers Mars, se pose plein de questions, parce qu'il faut être capable de construire un vaisseau spatial qui pourra faire vivre des astronautes pendant des mois, littéralement des mois, en autonomie complète, recycler l'oxygène, l'eau, quasiment les aliments, et donc ça demande beaucoup de travail. On ne sait pas encore le faire, hein, même dans la Station Spatiale Internationale actuellement. Donc il y a beaucoup de choses à tester, et pourquoi pas le faire avec les Émiratis.
On a parlé des Émirats, de la Chine, des Américains. Ils sont où les Européens ? Ça ne les intéresse pas, la planète Mars ?
Bien sûr que si. On a actuellement en orbite autour de Mars, en fonctionnement, deux sondes qui fonctionnent. Une qui s'appelle Mars Express, qui est là depuis 2003. Le 13 Gas Orbiter, qui est là depuis 2016, qui fonctionne parfaitement, qu'on, sans fausse modestie, révolutionné notre connaissance de Mars. Et puis, dès l'année prochaine, donc l'année prochaine martienne, donc en 2022, on va lancer une nouvelle mission qui s'appelle ExoMars, avec notamment un rover assez ambitieux qui s'appelle Rosalind Franklin.
Un robot, ouais.
Et qui va, un peu comme le rover américain, se promener au fond d'un ancien lac autrefois plein d'eau liquide, aujourd'hui asséché, et essayer de rechercher si on retrouve des formes de vie, d'où le nom ExoMars. Hein, c'est un lien avec ce qu'on appelle l'exobiologie.
Et donc cette question de la vie sur Mars est toujours en suspens aujourd'hui. On n'a jamais trouvé de réponse définitive.
Ah oui, si vous aviez la réponse, vous le sauriez, ce serait une découverte importante. Bah oui, on mène l'enquête. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Hein. On sait que, encore une fois, aujourd'hui, Mars est une planète froide et assez aride et donc stérile. Mais on sait qu'aussi, on sait que par le passé, il y a quelques milliards d'années, hein, il y a longtemps, elle est découverte de lacs et de rivières d'eau liquide. À la même époque, la vie est apparue sur Terre. Donc on se pose la question si ça a été le cas sur Mars. Et c'est pour ça qu'on va enquêter. Et l'idée, c'est soit de trouver des formes de vie, alors fossiles, a priori, mais ce serait quand même une découverte importante, ou alors de mener l'enquête sur l'intermédiaire entre le vivant, le non-vivant et le vivant. Sur Terre, on ne peut pas mener cette enquête-là. Le vivant a tout envahi. Donc Mars, c'est vraiment très intéressant. Et puis effectivement, si on découvre le démarrage d'une vie, surtout d'une vie différente de ce qu'il y a sur Terre, par exemple, pas à base d'ADN, vous savez que sur Terre, c'est à base d'ADN, et bien dans ce cas-là, ce serait une révolution. On se rendrait compte que dès qu'il y a un peu d'eau liquide pendant un certain temps, eh bien la vie démarre. Et ça, c'est une vraie question. On ne sait pas s'il faut des circonstances exceptionnelles pour que la vie démarre, ou au contraire, ça arrive systématiquement. Et la réponse est certainement sur Mars.
D'un mot très court, oui ou non, l'Europe lance une nouvelle campagne pour recruter de futurs astronautes, les astronautes de demain. Vous pensez que parmi eux, il y aura peut-être 10 places. Vous pensez que parmi eux, l'un d'eux ira un jour sur Mars ?
C'est possible, à moins que ce soit Thomas Pesquet, puisqu'il y a un avantage d'être un petit peu âgé pour aller sur Mars. Parce que quand on est âgé, on est moins sensible au cancer, et c'est l'un des dangers de voyager dans l'espace, c'est d'être soumis aux radiations qui sont cancérigènes. Donc peut-être que Thomas Pesquet, dans quelques 10-20 ans, ce sera lui qui ira sur Mars.
Qui pour l'instant se prépare à retourner dans la Station Spatiale Internationale. Merci infiniment François Forget, c'est fascinant de parler de cette planète qui est, je le disais comme tout à l'heure, c'est un rêve de gosse, aller sur Mars. On espère connaître ça un jour astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Merci à vous. Bonne journée. L'édito politique à suivre avec Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h56 sur Europe 1.
L'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Sébastien.
Le duel Macron-Le Pen est donc bien lancé à 15 mois de la présidentielle et Christophe Castaner a utilisé un mot sur lequel on s'arrête ce matin, c'était dans le Parisien ce week-end, il a dit que Marine Le Pen était son ennemi.
Oui, son ennemi et pas son adversaire. Le patron des députés de La République En Marche n'y va pas par quatre chemins. Je fais, dit-il, la différence entre mes adversaires politiques et les ennemis de La République. Les ennemis de La République sont mes ennemis et Marine Le Pen est une ennemie de La République. Bon, ce genre de déclaration est assez rare, assez peu raccord avec la tradition démocratique. Dans le jeu politique, en effet, dans le débat, dans la controverse, on bagarre contre des adversaires, pas contre des ennemis.
Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que selon vous, c'est un dérapage de Christophe Castaner?
Ben non, c'est au contraire très calculé. Un des objectifs de cette attaque était de recadrer le discours sur le Rassemblement national après le débat Darmanin-Le Pen. À plusieurs reprises, le ministre de l'Intérieur avait tenté de faire sortir de son rôle une Marine Le Pen qui surjouait le sourire, le côté soft, dans le but bien sûr de se donner une image apaisée. À plusieurs reprises, Gérald Darmanin l'a décrite comme trop molle ou pas assez dure face à l'islamisme, histoire de débusquer une autre Marine Le Pen, plus sectaire, plus conforme à l'image que justement la patronne du Rassemblement National essaye d'effacer. Bon, ben le résultat, c'est un effet prise de judo.
Un effet prise de judo, ça veut dire quoi? Vous voulez dire quand on utilise la force de son adversaire?
Exactement. À force d'essayer de déséquilibrer son adversaire, Gérald Darmanin s'est laissé entraîner à soutenir que sa ligne, celle du ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, était plus dure que celle de Marine Le Pen. Comme si la majorité était, sur les thèmes de l'islamisme, plus à droite que la droite de la droite. Effet garanti. Et ça n'a d'ailleurs pas traîné, puisque plusieurs voix au sein de La République En Marche ont avoué leur malaise face à cette stratégie.
Et voilà, donc c'est donc pour ça que Christophe Castaner a placé une attaque aussi raide.
Ben oui, pour corriger le tir, pour rediaboliser Marine Le Pen. Un proche d'Emmanuel Macron me disait d'ailleurs hier que la stratégie de Gérald Darmanin se défendait parfaitement. Il faut, expliquait-il, mobiliser cette partie de l'électorat d'Emmanuel Macron qui veut du régalien, de la sécurité, qui veut plus d'ordre public. C'est vrai, et c'est une façon de battre dès le premier tour le rappel de l'électeur plutôt situé à droite. Sauf que le problème du chef de l'État devient de plus en plus le second tour, là où il faudra rameuter large contre la probable présence de Marine Le Pen. Et comment mobiliser l'électeur de gauche? Comment l'empêcher de s'abstenir s'il a le sentiment que la ligne Macron est plus dure que la ligne Le Pen? Vous voyez, c'est compliqué en politique de faire du judo.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, l'édito politique d'Europe 1.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Laurent Cabrol, c'est à vous à 7h59, ça sera douci.
Oui, ça sera douci sérieusement, au point que ce sera, nous allons vivre la semaine du changement, avec des températures plus douces, un ciel moins larmoyant, et puis ensuite nous retrouvons, disons, la semaine prochaine, un temps des pratiquement printaniers. Vous voyez que nous allons changer vraiment de saison. Alors aujourd'hui, attention, si vous habitez les côtes de la Manche, et puis la région parisienne, comme la Loire-Atlantique, la Champagne-Ardenne, toutes ces régions qui sont dans ce secteur vont connaître des passages pluvieux. Alors que ce sera sec, mais souvent couvert sur l'Orléanais, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Poitou-Charentes. Voilà pour l'essentiel. Dans le sud, eh bien, nous aurons un ciel le plus souvent dégagé, avec de belles éclaircies, excepté dans le golfe du Lion. Et les températures maximales sont en hausse, déjà entre 6 et 18 degrés, rendez-vous compte.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.